Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, pour que tout soit bien clair, je vous rappelle la doctrine que je vous ai exposée dans le dernier sermon, à savoir que la très sainte Eucharistie se compose de trois éléments, le signe pur, la réalité qui est en même temps signe et la réalité pure. J'ai utilisé les trois termes latins, certainement ne sont-ils pas faciles à retenir pour vous, ils ont l'avantage de faire référence à une doctrine très précise. Sacramentum tantum, le sacrement tout seul, ou signe pur, la res et sacramentum, la réalité qui est en même temps signe, et la réalité seule, res tantum. Je vous ai rappelé que le signe pur, ce sont les espèces eucharistiques, le pain, le vin, dans leur consécration. La réalité qui est en même temps signe, c'est la très sainte humanité de notre Seigneur. Et la réalité qui est donnée, la res tantum, nous allons voir, elle est très riche, c'est l'union au Christ, l'union à Dieu, à la Sainte Trinité, aussi bien l'union de chacun d'entre nous que l'union de l'Église. Nous allons aujourd'hui méditer, non pas vraiment sur la res et sacramentum, c'est-à-dire la sainte humanité de notre Seigneur, mais sur son rapport avec le sacrement seul, avec le signe seul. Qu'a voulu le Christ? Il a voulu rendre présent son sacrifice. Rappelez-vous ce que nous avons enseigné et rappelé en méditant les mystères de notre Seigneur. Il y eut un sermon, les mystères du Christ sont nos mystères. Seulement voilà, s'il n'y avait pas eu la Sainte Eucharistie, ils seraient nos mystères uniquement dans la foi, ce qui serait déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'il y aurait une union à Dieu à travers des mystères qui ont été réalisés historiquement autrefois et auxquels nous nous unirions par le souvenir dans la foi. Pas un simple souvenir, bien entendu. Un souvenir dans la foi. Cette union, parce que c'est ce que Dieu veut, parce que ces mystères sont efficaces, cette union suffit pour produire la grâce. Et on voit effectivement dans certaines conversions que la méditation de la vie de notre Seigneur, de ses mystères, de sa passion, suffit à convertir quelqu'un et même à le convertir profondément. Seulement, notre Seigneur a voulu faire plus. Je vais vous prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais enfin. Lorsque le soleil est caché derrière les nuages, il chauffe bien la terre, il l'éclaire d'ailleurs à travers les nuages. Seulement, lorsqu'il est présent, parce qu'il n'y a pas de nuages, à ce moment-là, il brille, et il nous communique une énergie supplémentaire, une joie supplémentaire, une facilité à profiter de sa chaleur et de sa clarté. C'est un petit peu ce que notre Seigneur a voulu. Sa passion est suffisamment efficace, évidemment, puisqu'elle est la passion du Fils de Dieu, pour sauver la terre entière, tous les hommes, et beaucoup plus d'hommes d'ailleurs, s'il y en avait. Mais Jésus-Christ a eu pitié de notre faiblesse et il a voulu se rendre présent et rendre présent son sacrifice presque à chaque endroit de la terre et surtout à chaque moment de la vie de l'Église et de la vie de nos âmes. Et pour cela, il a réalisé un sacrement qui va être beaucoup plus parfait, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que les autres sacrements, puisque L'Eucharistie contient sa présence et sa présence immolée avant même que nous en profitions, que nous nous unissions, que nous communions. Et cette présence, comme un soleil qui entre dans une pièce, est efficace d'elle-même. C'est pourquoi le sacrement est pleinement réalisé dans la consécration même du pain et du vin, tandis que les autres sacrements ne sont réalisés que par l'application de la matière et de la forme. Quand je dis « je te baptise », le sacrement est réalisé au moment où on applique l'eau en prononçant les paroles, et dès que c'est fait, le résultat est là, l'effet est bien présent, mais le sacrement cesse. Tandis que l'Eucharistie, non. Il est donc important, avant d'étudier notre Seigneur présent, d'étudier comment il est présent, comment il se rend présent sous les apparences du pain et du vin, et comment il est présent, quel est son mode de présence. C'est pourquoi le Concile de Trente et surtout le catéchisme de Saint Pie X étudient longuement cette réalité de manière à ce qu'il n'y ait aucune hésitation, aucune erreur, puisque tout va dépendre de là. C'est la moindre erreur sur la signification, sur les espèces eucharistiques, sur le mode de présence, va avoir des conséquences dramatiques, on peut dire, sur tout le reste. D'où le plan de ce sermon, tout d'abord la matière, puisque vous savez que tout sacrement est réalisé dans une matière, sinon le signe ne serait pas sensible, la forme qui donne la signification à cette matière, et ensuite le mode de présence du Christ sous les apparences du pain et du vin. La matière, vous le savez, ce sont le pain et le vin. Pourquoi notre Seigneur a-t-il choisi le pain et le vin? D'abord comme signe de nourriture. Nous allons voir que, évidemment, la nourriture ne désigne pas directement le corps et le sang de notre Seigneur, mais elle désigne ce que sont le corps et le sang pour nous. Et nous allons voir que ce signe est très riche, que la nourriture va beaucoup plus loin qu'une simple réfection telle que nous l'imaginons. Ensuite, le pain et le vin, les espèces sont séparées pour signifier la séparation du corps et du sang, ça je vous l'ai déjà dit, pour montrer que l'homme tout entier avec son corps et son sang est nourri et pénétré, transformé par la Sainte Eucharistie. Enfin, pour annoncer l'unité de l'Église, je vous l'ai dit aussi, puisque les grains de froment sont broyés en un seul pain, de même les grains de raisin broyés pour former un seul vin. Enfin, le vin exprime la joie spirituelle, il enivre. Vous avez la très belle prière « Âme du Christ, sanctifiez-moi, corps du Christ, sauvez-moi, et sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. » On mêle un peu d'eau au vin, et cela, saint Thomas l'étudie dès le début, car le sang qui a jailli du côté de notre Seigneur Jésus-Christ a jailli avec de l'eau, et l'eau signifie le peuple, nous dit un père de l'Église. L'eau signifie le peuple, et le vrai vin signale le sang du Christ. Donc lorsque l'eau est mêlée au vin dans le calice, le peuple est uni au Christ. La présence de l'eau, qui n'est pas nécessaire à la validité, mais qui est nécessaire à la plénitude d'expression, et surtout qui est nécessaire pour que nous comprenions bien en quoi nous sommes impliqués. Cette eau exprime justement que nous sommes impliqués. L'eau signifie également la joie éternelle, puisque notre Seigneur a pris avec la Samaritaine la comparaison de la source d'eau jaillissante qui exprime l'éternité. Il faut préciser une chose, notre Seigneur n'a pas laissé la liberté de changer la matière de ce sacrement, comme pour la plupart des sacrements d'ailleurs. On ne pourrait pas, sous prétexte que en Chine c'est l'alcool de riz qui réjouit le cœur de l'homme, ou bien sous prétexte qu'en Afrique c'est la farine de manioc qui remplace le pain, On ne pourrait pas consacrer de la farine de manioc ou de l'alcool de riz. Il est absolument indispensable et jamais, jamais l'Église n'a donné la possibilité, parce que ce serait invalide, de consacrer du manioc ou de l'alcool de riz. La forme du sacrement, la forme de la consécration du pain n'est pas difficile. Ceci est mon corps. Elle désigne le corps, elle désigne le sujet de la passion. Elle est au présent parce que cela signifie une présence réelle au moment où les paroles sont prononcées. La forme de la consécration du vin, alors il faut que je vous le rappelle, ceci est en effet le calice de mon sang. Alors calice veut dire mon sang qui est présent dans le calice. Ceci est donc mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance. Là, directement, on va à une réalité qui est très profonde et qui est très importante, à savoir l'union dans la charité. Pourquoi cette alliance est-elle nouvelle? Parce que la première alliance n'était qu'une annonce de la deuxième. Dans l'Ancien Testament, les pères de l'Ancien Testament s'unissaient bien à la passion de Jésus et à la très sainte Trinité, mais à travers une annonce. Ils n'avaient pas la présence du Christ, ils n'avaient pas la présence de l'ami auquel nous sommes unis dans l'amitié. Tandis que nous, nous l'avons. Cela vous surprend peut-être que je parle de l'ami, mais c'est bien cela dont il s'agit. Tout le grand mystère de la création d'abord, de la rédemption ensuite, est un mystère d'amour. Et le véritable amour, l'amour réciproque, l'amour plein, c'est l'amour d'amitié. C'est absolument extraordinaire que le Christ ait voulu ainsi s'abaisser pour nous faire entrer dans son amitié, qui est l'amitié qu'il possède avec le Père, et nous élever, hein, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurer dans mon amour. Donc cette alliance, vous voyez, c'est cela. Elle est éternelle parce qu'elle durera éternellement, parce que le Christ est éternel. Mysterium Fidei, c'est un mystère de foi. Alors là, faites bien attention. Les modernistes ont cherché à fausser, et ça a des grandes conséquences si on ne comprend pas bien ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire « il est grand le mystère de la foi ». Bien sûr que la foi est un mystère et que la foi est grande et tout ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que ce mystère, ce sacrement, ne peut être saisi que dans la foi. Mystère de foi, c'est un avertissement. C'est un mystère qui dépasse notre simple nature, qui atteint la vie divine en nous pour la nourrir et pour l'immoler avec le Christ. Il faut que nous nous mettions au bon niveau. C'est un avertissement que donne le Christ et qui est très important. Qui provobis et promultis effundetur, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Le sang de notre Seigneur a bien été versé, et là nous avons la signification de la passion du Christ. Je vous ai dit que la passion du Christ nous était signifiée, c'est-à-dire montrée par la séparation du pain et du vin. En réalité, ça c'est un début de signification. La pleine signification de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie se fait par les paroles, hein, parce que les paroles sont beaucoup plus claires et expressives que la simple matière, et ce sont les paroles de la consécration du vin en le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui expriment parfaitement cette réalité. Il s'agit du sang versé dans la passion de notre Seigneur. Pourquoi sera livré pour vous? Parce que nous reproduisons ce qui s'est passé le jeudi saint. Nous rendons de nouveau présent le signe qui fut efficace le jeudi saint. Remarquez cependant qu'il y a le présent. Ceci est le calice de mon sang. Donc c'est bien le sang de Jésus-Christ. Mais on y fait référence au futur. Pourquoi le futur? Parce que justement, il ne s'agit pas d'un sacrement différent de celui réalisé et institué par notre Seigneur le Jeudi Saint, il s'agit de sa prolongation. Effundetur qui sera versé in remissionem peccatorum pour la rémission des péchés, là c'est parfaitement clair, je n'ai pas besoin de commenter. Provobis et promultis, qui pour vous et pour beaucoup, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de dire pour vous et pour tous, parce que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est pour tous, mais la Sainte Eucharistie n'est que pour beaucoup. Il faut être dans l'Église. Ceux qui ne sont pas dans l'Église sont atteints par la passion de Jésus-Christ en elle-même, qui les mène au sacrement pour être physiquement présents au pied de la croix. Les païens, par exemple, qui ne sont pas dans l'Église, profitent bien de la passion de Jésus-Christ. Mais cette passion de Jésus-Christ ne se limite pas à leur donner une foi simplement intérieure, seulement intérieure, ce qui ferait une église invisible. Ça, c'est l'église protestante de Luther, une église invisible. Non, elle nous mène à notre présence visible, concrète, au pied de la croix, clairement désignée par les paroles et les signes eucharistiques. Troisième partie de ce sermon, la présence réelle maintenant, comment Jésus-Christ est-il présent? Il faut évidemment suivre de très près l'enseignement de l'Église. Le Christ est présent en vérité et non pas en figure. Les protestants disent que le Christ est présent en figure, en mémoire. Les modernes également insistent sur le terme de Jésus-Christ, mémoire. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il dit « faites ceci en mémoire de moi », dit « faites ceci ». Il ne dit pas « ceci est la mémoire de moi ». Il dit « en mémoire de moi, faites ceci ». C'est-à-dire, ce que je viens de vous expliquer, réaliser ceci qui va vous donner l'union concrète, substantielle. Il est présent substantiellement. Alors là, il ne faut pas chercher des choses compliquées. Lorsqu'un enfant dit à sa maman « Maman, c'est quoi cela ?» Cela désigne la substance. Si la maman lui répond « C'est blanc », l'enfant dit « Non, mais c'est quoi ?» Alors il faut que la maman lui dise « C'est du pain. » C'est une fleur, c'est un oiseau. Vous avez là la substance. Quand je vous dis oiseau, vous ne pensez pas à une couleur, ni à une dimension, ni à une époque, ni à un lieu. Bon. Seulement, évidemment, des oiseaux qui existent sans être dans une époque, un lieu avec une couleur, ça n'existe pas. Parce que la substance est toujours présente sous des apparences et sous des qualités extérieures. On appelle ça des accidents, parce que « mais accident » veut dire « ce qui arrive, ce qui s'adjoint, ce qui s'ajoute ». C'est un terme latin qu'il faut bien comprendre. La substance désigne la chose. Donc, l'enseignement de l'Église, qui reprend la vérité, ce que Jésus-Christ est vraiment, c'est qu'il est présent substantiellement. C'est quoi ça? Ça, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est quoi cela? Ça, c'est le sang de Jésus-Christ. Comment sont-ils présents? Ils sont présents sous la dimension du pain, sous la couleur du pain, sous l'apparence du pain, sous les qualités du pain. De même pour le sang, sous les qualités du vin. Ne croyez pas que cela fait référence à un système philosophique particulier, celui d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Non! C'est l'inverse. La philosophie d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin sont la philosophie recommandée par l'Église parce que, justement, elle s'en tient aux réalités réelles, aux réalités que même des enfants saisissent déjà. Bien sûr que la philosophie va expliquer les rapports entre la substance et l'accident, mais les termes du Concile de Trente, qui parle de substance et de transsubstantiation, ne sont pas liés à cette philosophie. C'est nous qui utilisons cette philosophie pour expliquer des réalités très simples et qui sont à la portée de tout le monde. Puisqu'il y a un changement de substance, la substance du pain a totalement disparu et à la place, il y a la substance parfaite du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allez pas croire qu'il y ait deux substances à la fois. Un oiseau peut pas être cheval en même temps et un cheval peut pas être oiseau. On est oiseau ou cheval. Eh bien, le pain ne peut pas être présent avec sa substance en même temps que Jésus-Christ. Les apparences sont celles du pain, bien sûr. Ça, c'est un mystère. Et elles ne sont pas celles de notre Seigneur, elles sont celles du pain. Et c'est à cause de cela que le Concile de Trente parle de transsubstantiation, qui est un terme qui n'est pas courant, évidemment, puisque une transsubstantiation ne se fait que dans ce mystère. Un changement, une conversion totale de la substance du pain en la substance du corps. De même pour le vin. Et les conséquences, le Christ est vraiment présent sous les accidents, mais sans dépendre des accidents. Et donc il n'est pas dans un lieu. Ça, c'est très mystérieux. Il est bien présent là où sont les accidents, mais on ne peut pas dire qu'il soit présent dans un lieu puisqu'il est présent par sa substance. Et par conséquent, si on coupe l'hostie en deux, ce qui est un des rites de la messe, on ne coupe pas notre Seigneur en Dieu. Et ça ne le fait pas mourir non plus. Il est totalement présent sous chacune des parties. Et s'il était présent sous ses propres apparences, il ne pourrait pas être présent en plusieurs lieux, hein, puisque c'est la quantité qui détermine le lieu. Une autre conséquence, c'est que si les apparences disparaissent, les espèces, les accidents, la quantité, la qualité du pain et du vin, alors qu'il n'y a plus de pain et du vin, à ce moment-là, la substance du Christ disparaît, puisqu'il est présent sous ses apparences. Il est présent tout entier et vivant, et nous verrons cela, puisqu'il est vivant, là où est son corps se trouve également son sang, puisque son sang est uni à son corps, puisqu'il est ressuscité. Parce que vous voyez, le sacrement désigne la passion. Elle réalise le Christ présent avec son immolation, mais elle ne le tue pas. Elle ne sépare pas le sang du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ça serait ridicule. Et donc voilà pourquoi, là où est le corps, se trouve nécessairement aussi le sang, le corps parce qu'il est signifié, désigné, le sang parce qu'on ne peut pas le séparer. Là également se trouve l'âme, puisque notre Seigneur est vivant, et là se trouve la divinité, puisque la divinité n'a jamais un seul instant abandonné le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Concile de Trente insiste, et tous les catéchismes pour dire que le Christ est présent tout entier, donc avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. De même, le sang est désigné par les paroles, c'est le sang qui est vraiment présent, mais puisque notre Seigneur est vivant, éternellement vivant, ressuscité, là où est son sang se trouve son corps, son âme et sa divinité. C'est une pure merveille. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de notre chemin de découverte de la profondeur de l'union à Jésus-Christ à travers le Saint-Sacrement, mais déjà ce miracle, ce mystère extraordinaire nous montre que Jésus-Christ a déployé sa sagesse, sa puissance, j'allais dire son ingéniosité, pour nous prendre et nous faire entrer dans son mystère. Que Notre-Dame vous accompagne et elle vous mènera jusqu'au pied de la croix, jusqu'à la joie de la croix et jusqu'à la joie éternelle du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.